Nous en sommes déjà rendus donc au dernier thème de la soirée, des préoccupations sociales. Voici la première question sur ce thème. Bon nombre de nos aînés vivent en situation financière précaire et cela touche un plus grand nombre de femmes que d'hommes. Au-delà de l'épargne individuelle et du régime des rentes, c'est le gouvernement fédéral qui a la responsabilité des prestations de subsistance aux aînés, que sont la pension de vieillesse et le supplément de revenus garanti. Que peut-on faire pour assurer une meilleure sécurité financière à nos aînés? La question s'adresse dans un premier temps à M. Plamondon. Vous avez donc 45 secondes.
D'abord, dire que le Bloc est très fier du travail qu'il a fait pour les aînés. Rappelez-vous, c'est M. Gagnon qui était député et qui avait découvert qu'il y avait 1 milliard de suppléments de revenus garantis, qui est 2 milliards de suppléments de revenus garantis qui n'étaient pas versés à nos aînés. Nous avons fait le tour de toutes les régions du Québec, des résidences, et nous avons pu, comme ça, retrouver 250 millions qui ont été versés au Québec à des aînés rétroactivement parce qu'ils n'avaient pas demandé le supplément de revenus garanti, parce qu'il faut l'inscrire dans le rapport d'impôt par un petit crochet ou par une déclaration à part. On s'est battu pour cela et on a obtenu que ça soit fait automatiquement lorsque le rapport d'impôt est déposé et c'est en vigueur depuis 2018. Cependant, nous avons...
On pourra revenir.
Je voulais vous proposer ce que maintenant on veut, mais alors je reviendrai tout à l'heure.
Madame Rochefort.
Justement, M. Plamondon, ça c'est un bel exemple de collaboration entre différents députés, différentes formations politiques. Je ne connais pas la position qu'avait pris les conservateurs là-dessus, mais je sais qu'il y avait quand même une unanimité à la Chambre. Ce qu'on a fait, nous, depuis cette époque, on a majoré les prestations pour aînés, ce qu'on entend faire dans un prochain gouvernement libéral, notamment augmenter de 870 $ la majorité, le fonds de pension, mais aussi, surtout, mettre en place une mesure qui va majorer la prestation pour les veufs et les veuves, donc les conjoints survivants. Et ça, ça va avoir une différence, faire une différence majeure, notamment chez les aînés, qui sont majoritairement des femmes.
Merci. C'est maintenant au tour de M. Aymon.
Nous autres, on veut, au Parti conservateur, on veut mettre en place un crédit d'impôt de 1 000 $. Ce serait le troisième qui aurait été établi. On avait établi deux lors des gouvernements conservateurs présents. Il y a précédents. Il y a d'autres aussi crédits d'impôt qui va toucher les aînés, entre autres le couper la TPS, le chauffage des maisons. Et c'est ça.
Merci. Et on termine ce tour de table avec M. Turcotte.
Merci beaucoup. J'attendais que le timer parte. Nous, ce qu'on veut au Parti vert du Canada, c'est de s'assurer que le régime de pension du Canada il demeure complet et souple pour répondre aux besoins changeants et aux circonstances du moment en augmentant, avec le temps, le taux de remplacement du revenu de 25 à 50 % du revenu gagné durant les années de travail. Ce qu'on veut faire également, on veut implanter un revenu minimum garanti également au niveau de la population canadienne, qui serait variable d'une région à l'autre, qui serait variable là, du coût de la vie d'une province à l'autre, par exemple, ou d'une région à l'autre. Là, ça inclurait également là, des prestations pour les aînés là, de ce côté-là.
Merci. On passe maintenant à notre discussion de 3 minutes. Et est-ce que l'une des solutions serait d'offrir des avantages fiscaux additionnels pour que nos aînés puissent rester plus longtemps sur le marché du travail? La parole est d'abord à M. Aymon.
Oui, quand c'est possible. Mais on parle aussi d'une certaine tranche d'âge. Oui, ça pourrait résoudre des problèmes et de main-d'œuvre et de revenus qu'ils peuvent gagner sans être imposés. Oui, c'est une bonne idée.
Madame Rochefort?
Moi, mon papa vient de prendre sa retraite à 75 ans. Et il n'est pas resté sur le marché du travail par besoin d'argent ou pour des avantages fiscaux. Il est resté sur le marché du travail parce qu'il aimait son boulot. Et je pense que c'est aussi une chose qui est importante dans la vie, c'est au-delà de l'avantage fiscal, il faut s'assurer de la qualité de vie de nos aînés en entreprise. C'est pas seulement juste un chèque, c'est plus que ça, c'est plus humain à la base. Quand ils ont contribué à construire le Canada pendant 40, 50, 50, 60 ans, je pense qu'on a le droit, ils ont le droit un peu plus que ça.
Monsieur Turcotte?
Oui, bien, je suis d'accord avec Mme Rochefort. Mon père aussi est à la retraite, d'ailleurs. Je suis sûr que de donner là, des crédits d'impôt ça le ferait probablement revenir sur le marché du travail, faire quelques heures de temps en temps. Ça serait un incitatif, c'est sûr que ce serait un incitatif pour plusieurs personnes là, de 65 ans et plus. Là. Ça leur offre une occasion là, de pouvoir continuer à contribuer, des fois même de se désennuyer, même parfois.
M. Plamondon?
Je trouve que vos parents ont pris leur retraite très jeune. voici, nous au Bloc, on propose, c'est que lorsqu'arrive la retraite, les gens pourraient gagner, par exemple, non pas 3 000, mais j'irais jusqu'à au moins 5 000 $ sans que ça affecte leur revenu de pension de sécurité d'emploi, incluant le supplément. Jusqu'à 5 000 $ Ce serait une bonne façon de les ramener au marché du travail. Autre chose, il y a beaucoup de retraités qui seraient prêts à faire du travail saisonnier. Alors, pour faire ce travail saisonnier-là, s'ils travaillent, mettons, 25 semaines, bien, quand ils demandent le chômage parce qu'ils ont quitté le travail, il faut qu'il y ait 900 heures. Alors, la loi de l'assurance chômage pourrait être modifiée pour qu'ils puissent avoir la retraite selon les normes de la région, c'est 630 heures, bien c'est 630 heures, comme tout le monde. Si bien que là, ils pourraient faire 3 ou 4 ans comme travailleurs saisonniers, comme ça.
Laissez les secondes qui restent à M. Aymon si vous, pour le thème des aînés.
Moi, ça va, merci.
Ça va aller. Alors, merci à tous. Passons à notre seconde question. La circonscription de Bécancour-Nicolet Sorel inclut dans son territoire deux communautés autochtones abénakis, Odanak et Wolinak. Bien que ces deux territoires s'en tirent mieux sur les plans économiques et de santé publique que bien d'autres Premières Nations au pays, ils font quand même face à plusieurs défis. Comme les questions autochtones sont pour l'essentiel de juridiction fédérale, quelles devraient être les priorités du gouvernement canadien pour les communautés de Odanak et de Wolinak? Et la parole est d'abord à M. Turcotte. Vous avez 45 secondes.
Merci beaucoup. Nous, ce qu'on propose, encore au Parti vert du Canada, en fait, c'est pour les communautés autochtones. Nous, on a des mesures là pour les intégrer à nos plans là, économiques, écologiques également. On veut, là, on prévoit 100 millions de $ là, par année au cours des 4 années à venir pour créer des aires de conservation protégées pour les Autochtones, par les Autochtones, c'est-à-dire, et financer la garde de ces terres et de ces eaux par les Autochtones. Donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on veut, là, puis effectivement, là, les communautés d'Odanak et de Wolinak là, seraient mises à contribution, là. On veut là, qu'eux aussi là, participent à la prévention des changements climatiques et la protection de notre biodiversité.
Monsieur Plamondon.
Bien, le Québec vient de recevoir un rapport avec 144 recommandations. Le rapport a été connu cette semaine. Je pense qu'avec raison, le premier ministre a présenté des excuses pour tout ce qui est des erreurs qui ont pu être faites et toutes les décisions injustes qui ont été prises. Je suis d'accord avec cela. Maintenant, au niveau de nos Abénakis, on peut dire qu'on peut être très fiers du traitement que les conseils de bande font envers leurs membres et la collaboration extraordinaire qui existe avec les communautés environnantes. Bien sûr qu'il devrait y avoir davantage d'argent investi au niveau de l'éducation et de la santé.
Merci.
Et cela, c'est surtout ce qui a manqué. Et violence faite aux femmes, il y a le rapport à part passé.
Oui, en effet, M. Legault, le premier ministre du Québec, a présenté des excuses cette semaine, ce qu'on a fait il y a quand même un certain temps. Mais la communauté Abénaki devrait être cité en modèle pour dédramatiser, pour faire diminuer les préjugés face aux communautés autochtones. On a des entrepreneurs autochtones, autant à Danak qu'à Wolinak. Oui, il y a des besoins. Entre autres, ils cherchent encore les médecins. Mais les besoins sont aussi ceux d'une petite municipalité éloignée d'un grand centre. Donc, il y a beaucoup de partenariats qui se développent actuellement. Encore Pierreville, je suis désolée, c'est ce que je connais le mieux en un an. On a un centre de traitement des déchets qui est en collaboration Pierreville, Odanak, Saint-François. Donc, il y a des partenariats qui se font et qui doivent continuer.
Monsieur Aymon, 45 secondes.
Ben, j'abonde dans le même sens. Les communautés autochtones qu'on a dans sur notre territoire ici sont des exemples de belles cohabitations avec nous. Ils sont... Ils font partie de notre communauté. Ils vivent des réalités différentes et aussi les mêmes que nous autres sur bien des enjeux, notamment dans de santé et d'éducation. On peut faire plus? Oui, assurément.
Donc, on passe maintenant à la discussion libre de 3 minutes. La parole est d'abord à Mme Rochefort. Et pour relancer ce débat, je vous soumets la question suivante. Quelles mesures devraient être mises en place pour favoriser le développement des compétences et l'employabilité des membres des Premières Nations?
Bien, déjà, à Odanak, nous avons le bonheur d'avoir un cégep. Donc, on offre des formations qui sont autant en Abénaki, qui sont en français et en anglais, puisque la communauté a double citoyenneté. Mais aussi, on doit développer le sentiment de compétence entrepreneuriale chez nos jeunes, autant de la communauté Abénaki, de Odanak-Wolinak, mais aussi chez les jeunes en général, parce qu'il y a de gros potentiels. J'ai quelques jeunes entrepreneurs de la communauté Odanak autour de moi qui sont fantastiques, mais il faut les aider, il faut les supporter, et ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi en étant leurs clients.
Monsieur Aymon.
Oui, absolument. Mais je rejoins honnêtement les propos de Mme Rochefort là-dessus, qui a une bonne connaissance. Je ne veux pas prétendre d'avoir les connaissances qu'elle a dans ce milieu-là. Et ses habiletés professionnelles à ce niveau-là, parce que c'est son travail. Alors, j'abonde dans le sens de Mme Rochefort, honnêtement.
Monsieur Plamondon.
J'ai eu le plaisir puis l'honneur d'assister à la remise des diplômes au cégep à Odanak. C'est un cégep qui est ouvert à toutes les communautés amérindiennes du Québec et aussi, ce qui est assez rare, aux Québécois de souche, à tous citoyens. C'est très inclusif. Et il y avait, parmi justement les finissantes, une Québécoise qui avait choisi de faire, de Pierreville, qui avait choisi de faire son cours, son secondaire, son cours là, de cégep, c'est-à-dire là. Et elle était finissante cette année. Et elle a témoigné de tout l'apprentissage qu'elle a fait au niveau de la culture, bien sûr, des Autochtones, puis aussi de la qualité de l'enseignement de ce cégep-là. La plupart se dirigeaient dans des soins infirmiers ou en enseignement. C'est donc... Ah, oh, j'ai fini?
Oh, ben, je voulais aussi un peu partager le temps avec M. Turcotte.
Je pourrais vous redonner la parole après.
En fait, je suis d'accord avec M. Aymon. Effectivement, Mme Rochefort se connaît beaucoup dans les questions autochtones. Par contre, nous, ce qu'on veut faire au niveau du Parti vert du Canada, encore évidemment, on veut là, abolir là, la loi sur les Indiens. Là. Nous, ce qu'on pense, c'est que les Autochtones sont tenus dans une espèce de dépendance aux prestations fédérales. Pour les aider, moi, ce que je pense, c'est qu'on... Effectivement, le système de réserve, probablement que c'est pas comme... on parle plutôt de réserve, pas comme Odanak, ni Wolinak. Excusez, je cherchais le mot, désolé. Mais on veut les sortir, c'est en participant à la communauté avec tout le monde que c'est là qu'ils vont être reconnus. Là.
En conclusion, Mme Rochefort?
Ben, en conclusion, je pense que comme on est des modèles, puis on est quand même assez d'accord les quatre ensemble, ben, soyons fiers de nos communautés de Wolinak et Odanak, dites-leur, mais dites-le aussi ailleurs que dans la communauté. Il faut le dire à l'extérieur, il faut en parler à nos amis, il faut aller visiter le musée Abénaki qui est à Odanak. C'est quand même particulier. Ils ont écrit un livre en français, en anglais et en Abénaki pour les enfants.
Merci. On passe maintenant, merci à tous. Donc, il ne reste plus que 2 questions à aborder. Et pour l'occasion, nous allons parler d'autres champs de compétences qui relèvent du gouvernement fédéral. Voici la première de ces questions. La Ville de Nicolet espère depuis plusieurs décennies la rétrocession du quai du Port-Saint-François, présentement propriété du gouvernement fédéral, afin de l'utiliser à des fins touristiques. Elle exige toutefois qu'il soit remis en état ou qu'on lui verse les sommes nécessaires pour le faire. Quels sont vos engagements à cet égard? La question s'adresse dans un premier temps à M. Aymon. Vous avez 45 secondes.
Mes engagements, c'est de surveiller les programmes qui existeront à cet effet. D'en prendre connaissance premièrement, puis regarder ce qui va se développer à ce niveau-là, puis je serai proactif pour faire les liens, puis faire avancer le dossier.
D'accord. M. Turcotte, à votre tour.
Oui. À ce niveau-là, nous, on va effectivement aider à ce que ce site-là devienne un site touristique. On va l'aider, mais dans le sens où on va s'assurer là, que ça demeure un endroit là, sain, écologique, qu'il n'y ait pas de, de problèmes avec la biodiversité, qu'il n'y a pas de problème avec la végétation non plus, évidemment, là, ni la pollution de l'eau, évidemment. Là.
Monsieur Plamondon?
Oui, la rétrocession des parts est une volonté du gouvernement fédéral, c'est sûr, depuis quelle que soit la couleur du gouvernement. Il y a eu rétrocession de la fameuse descente à Yamaska, à Notre-Dame-de-Pierreville, le quai de Notre-Dame-de-Pierreville a été non seulement a été complètement réaménagé avant d'être remis. La même chose, le port de Sorel, 5 millions, a été donné, puis remis à la ville de Sorel. Celui de Nicolet, ça fait longtemps qu'on en parle avec les fonctionnaires. Ils offrent 500 000 $. C'est pas suffisant pour remettre le quai à neuf, comme le veut la ville de Nicolet. Mais présentement, la mairesse et le conseil de ville font un travail remarquable. Ils ont eu des rencontres avec les hauts fonctionnaires. Le dossier avance bien et c'est à souhaiter. Et ils ont toute ma collaboration pour que ça se règle dans le prochain mandat.
Madame Rochefort?
Ben, en ce qui me concerne, j'ai bien l'intention de faire des pressions pour que ce soit rétrocédé pour 2022, première chose. Et j'aimerais bien aussi que, comme legs pour 2022, qu'il y ait une rétrocession aussi de l'île Maurras. Donc, je pense que ça, c'est deux engagements fermes que j'ai déjà pris face avec Madame notre mairesse de Nicolet, qui est aussi notre préfet de MRC. C'est un atout majeur pour le tourisme dans la région. On en a grandement besoin aussi. Et en plus de ça, c'est un tourisme qui est bio, qui est vert, donc un tourisme axé sur l'environnement. Donc, c'est bon, c'est un symbole de fierté régionale qui va aussi indirectement attirer des gens à vouloir visiter notre ville, notre municipalité, notre région, et peut-être incidemment faire comme moi, dire « Wow, c'est donc génial, je déménage ».
On passe maintenant au débat de 3 minutes. La parole est d'abord à M. Plamondon. Et plus largement, quelles actions devrait prendre le gouvernement fédéral afin de supporter les industries touristiques et culturelles de la Rive-Sud?
De la Rive-Sud, c'est certain que quand on a ce qu'on appelle des points majeurs d'attraction, et cela pourrait être justement par le biais de l'île Maurras, puis qui est un petit paradis sur la rivière Nicolet, qui pourrait, je pense, être très attractif. Ce transfert-là doit se faire par le ministère de la Défense au niveau d'abord de la province qui, elle, le remet à la ville. C'est la façon de faire. Toujours passer par la province, c'est obligatoire dans toutes les rétrocessions qu'on fait. Au niveau, par exemple, de développement touristique, je pense qu'il doit y avoir aussi une plus grande unité parce que là, on a un office du tourisme pour la ville, pour la MRC de Nicolet, on en a une pour la ville de Bécancourt. D'avant, on avait un office de tourisme pour les deux MRC. Merci. Je pense qu'il y a besoin de regroupement des forces là, pour arriver à aller développer là. Par exemple, la rivière Gentilly.
Monsieur Aymon.
La rivière Gentilly, c'est un élément important aussi.
Oui. Je pense qu'il faut vraiment soutenir les actions locales. En tant que député, je pense que tu peux acheminer quand c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de juridictions provinciales là-dedans. Mais quand ça peut se chevaucher, entre autres l'île Maurras, dont on parle depuis tantôt, il y a moyen de concertation avec les élus municipaux qui travaillent là-dessus avec acharnement depuis plusieurs années, de mettre de la pression pour que ça avance le plus rapidement possible.
Madame Rochefort?
Moi, j'ai l'avantage d'avoir des réseaux de contacts intéressants à Québec ayant été élu déjà là-bas, connaissant bien la machine provinciale aussi. Il y a moyen d'avoir une rétrocession relativement simplifiée, mais encore faut-il que les conditions demandées soient là. Mais en matière de tourisme, j'abonde aussi dans le sens de M. Plamondon, mais chaque municipalité, chaque endroit a ses particularités. Nicolet, ce n'est pas la même promotion touristique que pour Sainte-Monique. Donc, on a chacun nos choses qu'on veut mettre en valeur et les mettre en valeur avec notre MRC, ça nous aide.
Monsieur Turcotte?
Bien, nous, à ce niveau-là, par exemple, on se propose là, de remettre de l'aide, là, par exemple, à des parcs nationaux, là, les parcs Parc Canada, par exemple, là, afin que de conserver leur mission, de conserver l'environnement dans ces parcs-là. C'est la même chose aussi pour les sites touristiques, en fait. Là. Nous, on va conserver leur mission. On va faire en sorte que l'environnement là, soit prime là, sur les profits de ces sites-là.
Oui.
Pour le parc de la rivière.
Oui.
Parc de la rivière Gentilly.
Deux secondes.
Le parc de la rivière Gentilly, oui. Ils ont reçu une subvention de 500 000 du fédéral dans le cadre des fêtes du 150e. C'était la seule du centre du Québec, d'ailleurs, subvention de cette importance-là. Et ça a fait en sorte qu'ils sont maintenant complètement reconnus à travers tout le
Québec. Merci. Donc, dernière question. Via Rail penche depuis plusieurs années sur un projet de train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto. Ce train, qui se veut une alternative abordable au TGV, permettrait de réduire le temps de déplacement vers la métropole et la vieille capitale. Le projet actuel, bien qu'il ne prévoit qu'un arrêt sur la rive nord de Trois-Rivières, pourrait être attractif pour les résidents de la rive sud. Êtes-vous en faveur de ce projet? Parole d'abord à Mme Rochefort, 45 secondes.
Oui, parce que ça va être aussi une façon de développer notre région, qui est le centre du Québec, à travers l'attraction que ça va attirer sur la Mauricie. Par contre, dans ce cas-là, ça va devenir urgent de travailler sur l'autoroute 55 pour l'élargir de la rente sécuritaire. Et donc ça va être un autre beau dossier fédéral-provincial à mettre en place.
Monsieur Aymond?
Oui, absolument d'accord. Mon collègue de l'autre côté, mon collègue candidat de l'autre côté du fleuve, pousse beaucoup là-dessus et il travaille depuis un certain nombre d'années déjà. Oui, assurément que avec le provincial, toujours, il va falloir regarder ce qui peut être développé à ce niveau-là.
Monsieur Turcotte?
Bien, nous, au Parti vert du Canada, on est... ça fait partie de notre... un train grande fréquence, c'est un... Ça fait partie là, de notre projet d'électrification des transports, là, effectivement, là. Donc, oui, c'est prévu de notre côté là, que ça passe par les régions là, qui sont rurales ou semi-rurales ou semi-urbaines, là, dépendamment de comment on voit ça. Effectivement, là, nous, on va travailler de concert avec les régions pour développer les transports électriques.
Et pour terminer ce tour de table, M. Plamondon?
Bien, la région est unanime pour ce projet-là. Là. Maintenant, ce train, transport, et c'est de juridiction provinciale. Tout ce qui est infrastructure, c'est de juridiction provinciale. Le seul rôle du gouvernement fédéral, c'est d'y contribuer financièrement. Québec demeure maître d'œuvre. Et je pense que Québec se penche sur ce projet-là, y croit. Alors, à ce moment-là, le gouvernement fédéral, lors des annonces de transfert, en passant au niveau infrastructure, on devrait transférer complètement l'argent dès le début d'avril au Québec pour que le Québec puisse agir immédiatement au lieu de faire une entente pour chacun des projets d'infrastructure qui ralentit le départ des grands projets. Mais ce projet-là fait l'unanimité, c'est sûr.
On passe maintenant à la discussion libre de 3 minutes qui porte justement sur les infrastructures. Le droit de parole est en temps premier à M. Turcotte. Donc, quels autres investissements d'infrastructures le gouvernement fédéral pourrait-il faire afin de favoriser le développement économique de la région?
C'est qu'en fait, là, pour le développement économique, je pense que déjà, là, d'avoir un train grande fréquence, c'est déjà là, un bon début, effectivement. Je vais vous avouer que j'ai pas pensé à autre chose, là. Je me disais, nous, on est ouvert au projet, là, au Parti vert, là. Si jamais je deviens député, effectivement, nous, on est ouvert à tout ce qui peut s'appeler développement économique. Ça sera pas, par contre, là, sans oublier le développement écologique et l'environnement, là. Ça, c'est certain.
Monsieur Aymond?
Oui, ben il y a beaucoup actuellement de projets qui sont dans la ligne de mire dans la région. On parle surtout en mobilité, honnêtement, qu'on parle d'un pont, d'un train grande fréquence, de routes industrielles. Je pense qu'un député au fédéral, une fois que le ministère de Transport a mis son aval sur certains projets et fixé des priorités, ben c'est là qu'il peut intervenir pour aider à pousser le dossier au niveau financement.
Madame Rochefort?
Oui. Donc, je pense que pour aussi se préparer au changement climatique, ça va être important d'investir sur des infrastructures plus résistantes. On l'a vu, par exemple, avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les inondations, les barrages qui ont cédé. Mais on doit aussi investir pour développer des infrastructures naturelles. Au centre du Québec, on a l'avantage d'être sur le bord du lac Saint-Pierre, d'avoir des rivières. Je pense qu'on pourrait devenir des fiers innovants en matière de développement de ces infrastructures naturelles qui pourraient aider non seulement notre région, mais l'ensemble du Québec, l'ensemble du Canada et probablement d'autres pays dans le monde. On peut faire plus que notre part. Les infrastructures, oui, les développer, mais on peut aussi être les maîtres, les innovants qui vont les permettre de les développer.
Monsieur Plamondon.
Je le répète, les projets d'infrastructure, c'est juridiction provinciale. Le gouvernement du Québec a une belle liste d'attentes en termes de projets. Maintenant, ici, concrètement, je sais que le député provincial, M. Martel, travaille ardemment aussi à suggérer au premier ministre des projets d'agrandissement, par exemple, de l'autoroute 55, le doublement, etc. Mais ces argents-là devraient, quand elles viennent du fédéral, elles devraient y venir beaucoup plus rapidement, de façon à permettre au Québec de réaliser ses projets. Le problème, c'est que quand c'est annoncé en avril, avec les petites ententes qu'il faut faire une après l'autre, on arrive en septembre et les ingénieurs ne sont plus disponibles, ni les architectes, ni les contracteurs, parce que tout l'ouvrage arrive en même temps. Et pour si bien qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. Pour conclure, ça pose un problème.
Conclusion, M. Aymond.
Bien, je rejoins M. Plamondon là-dessus. Il faut attendre les projets qui se concrétisent au niveau provincial. Ensuite, on peut intervenir.
En même temps, ça serait peut-être bien que quand l'argent est là, quand tout est prêt, que Québec dise pas non, on ne veut pas l'argent. Ce qu'ils ont fait dans plusieurs cas d'infrastructure dans les derniers mois par pure politicaillerie.
Merci. Défendons le Québec plutôt qu'Ottawa.
Merci à vous tous. Merci de votre collaboration tout au long de ce débat. On termine maintenant avec les déclarations de conclusion de chacun des candidats. Comme tout au long du débat, c'est un tirage au sort qui détermine l'ordre de la prise de parole. On débute avec M. Pierre-André Aymon, qui sera le premier. Donc, M. Aymon, que dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 21 octobre? Vous avez une minute.
Je leur dis que je suis profondément attaché à ma région. M'y impliquer est toujours pour moi non seulement une priorité, mais aussi un plaisir. J'ai une vision très positive et constructive de l'action politique, qui est, à mon avis, synonyme d'engagement, de dévouement et d'empathie. Durant les prochains jours, je continuerai activement mes rencontres et mes échanges avec vous pour bien cerner vos attentes et vos besoins. Au fil de mes visites dans la circonscription, j'ai découvert des communautés fort dynamiques, composées de gens inspirants, ce qui me motive à vouloir travailler avec eux et pour eux. Si vous me faites l'honneur de me choisir le 21 octobre prochain, je m'engage à être un député qui mettra du cœur à l'ouvrage, qui sera proactif, accessible et disponible. Merci.
Merci, M. Aymon. C'est maintenant au tour de Mme Rochefort. Que dites-vous donc aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 21 octobre? Vous avez une minute.
J'ai fait le choix de Pierreville. J'ai fait le choix de Nicolet Yamaska il y a un peu plus d'un an. En 3 semaines après ma visite, j'étais déménagée. Je suis une femme d'action, je suis une femme de projet. J'ai décidé de mettre mon énergie à la base à Pierreville. Et après moult rencontres dans la région, j'ai décidé de mettre mon énergie et mes projets au service de ma communauté. À la base, c'était pour la MRC de Nicolas Yamaska. La vie est ainsi faite que j'ai décidé de mettre toute mon énergie et mes réseaux au service de Bécancour, Nicolas Sorel. Donc, le but... c'est on laisse la politique aérie, on laisse aller toutes les choses qui nous irritent et on construit ensemble, on est fiers de notre région, on va de l'avant et surtout, on collabore tout le monde ensemble au-delà de la partisanerie qu'on peut croiser en politique.
Merci, Mme Rochefort. Monsieur Louis Plamondon, à votre tour, que dites-vous donc aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 21 octobre?
Merci encore d'avoir organisé ce débat à la Chambre de commerce et à Via 80,5. Depuis plusieurs années, je vous représente à Ottawa. J'ai fait mon travail avec passion, détermination, disponibilité et compétence. Je suis prêt à continuer à vous servir avec autant d'intensité si vous m'accordez encore une fois votre confiance. La possibilité d'un gouvernement minoritaire permettra au Bloc de défendre encore mieux les intérêts du Québec et de porter à Ottawa les consensus de l'Assemblée nationale. Chaque fois que le Québec a fait confiance aux conservateurs, aux libéraux, au NPD, le Québec a été déçu et le Québec a perdu. Avec le Bloc, le Québec sortira gagnant. Bonne fin de campagne à toutes et à tous. Et surtout, je vous invite à aller voter. Bonne soirée.
Merci, M. Plamondon. Et on termine avec M. David Turcotte. Que dites-vous aux électeurs pour les convaincre de voter pour vous et votre parti le 21 octobre?
Ben, en fait, ce que je leur dis, c'est merci d'avoir écouté l'émission aujourd'hui, le débat. Je pense que ça a été fait dans le respect le plus total. Là. Je pense que il y avait vraiment quatre bons choix là, devant vous aujourd'hui ou dans votre radio. Moi, je suis un citoyen excellent en politique. Je n'ai pas d'aspiration nécessairement de politique. Là. Mais ce que je voulais, c'est de faire porter les idées du Parti vert du Canada, en fait. C'est des idées qui me tiennent beaucoup à cœur, de justice sociale, d'environnement, surtout. Dans ce cas-ci, écoutez, les autres partis, je les nommerai pas, là, c'est des. On peut se peinturer en vert, mais le seul vraiment parti qui est foncièrement environnementaliste, il y en a seulement qu'un, et c'est le Parti vert du Canada. Donc, si pour vous aussi, l'environnement vous tient à cœur, si vous aussi, les changements climatiques vous inquiètent, c'est pour le Parti vert que vous devez voter là, le 21 octobre 2019. Merci.
Merci, M. Turcotte. Voilà, c'est ce qui conclut ce débat entre les principaux candidats dans Bécancourt, Nicolas Sorel, pour les élections du fédéral du 21 octobre prochain. Et je vous invite à applaudir vos candidats. Dans un premier temps, je souhaite remercier le Centre des arts populaires pour nous avoir accueillis ce soir. Un merci tout particulier à la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec qui a organisé avec nous ce débat, et tout particulièrement à Caroline Biron et la présidente de la Chambre de commerce, Sonia Caron. Merci aux candidats, merci au public présent ici à Nicolet et à tous ceux qui nous écoutaient sur les ondes de Via 95 FM. D'ailleurs, nous suivrons à notre antenne tous les développements de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin dans tout juste deux semaines. Nous vous invitons à vous prévaloir de votre droit de vote le 21 octobre prochain ou lors du vote par anticipation qui débute vendredi. Ici Jocelyn Ouellette, merci de votre attention et à la prochaine.
En direct du Centre des arts populaires de Nicolet, c'était Élections fédérales 2019, le débat. Une production Via 95FM, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec. Pour réentendre le débat, visitez dès lundi midi le www.via.fm.